Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 25 de la synthèse des yogas 2 de Sri Aurobindo, le yoga de la connaissance intégrale et le yoga de l'amour divin, traduit de l'anglais par Douce Mère. La connaissance supérieure et la connaissance inférieure. Nous avons maintenant terminé notre examen de la voie de la connaissance et vu où elle conduisait. En premier lieu, le but du yoga de la connaissance est la possession de Dieu. C'est posséder Dieu et être possédé par lui dans la conscience, par identification ou par réflexion de la réalité divine. Et ce n'est pas simplement posséder Dieu en abstraction et loin de notre existence présente, mais ici-bas aussi. Par conséquent, c'est posséder le divin en lui-même, le divin dans le monde, le divin intérieurement, le divin en toutes choses et dans tous les êtres. C'est posséder l'unité avec Dieu et par elle. Posséder en même temps l'unité avec l'universel, avec le cosmos et toutes les existences. C'est par conséquent posséder aussi la diversité infinie au sein de l'unité, mais sur une base d'unité et non sur une base de division. C'est posséder Dieu en sa personnalité et son impersonnalité, dans sa pureté exempte d'attributs et dans ses attributs infinis, dans le temps et par-delà le temps, dans son action et dans son silence, dans le fini et dans l'infini. C'est non seulement le posséder dans le moi pur, mais dans la totalité du moi. Non seulement dans le moi, mais dans la nature. Non seulement en l'esprit, mais dans le supramental, dans le mental, dans la vie et dans le corps. Le posséder avec l'esprit, avec le mental, avec le vital et la conscience physique, et de plus, c'est être possédé par lui à tous ses niveaux, de sorte que notre être tout entier soit un avec lui, plein de lui, gouverné, ému par lui. Et puisque Dieu est unité, c'est unifier notre conscience physique avec l'âme et avec cette nature de l'universel matériel. Unifier notre vie avec toute la vie. Unifier notre mental avec le mental universel, identifier notre esprit à l'esprit universel, c'est se fondre en lui, dans l'absolu, et le trouver en toutes les relations. En deuxième lieu, le but du yoga de la connaissance est de revêtir l'être divin et la nature divine. Et puisque Dieu est Satchit Ananda, c'est élever notre être à l'être divin, notre conscience à la conscience divine, notre énergie à l'énergie divine, et la félicité de notre existence à la joie d'être divine. Il ne s'agit pas seulement de s'élever à cette conscience plus haute, mais de nous élargir tout entière en elle. Car nous devons la découvrir sur tous les plans de notre existence et dans toutes les parties de notre être, de sorte que notre existence mentale, vitale et physique soit pleine de la nature divine. Notre mentalité intelligente doit devenir un mouvement de la connaissance volonté divine. Notre mentalité psychique, un mouvement de l'amour divin et de la félicité divine. Notre vitalité, un mouvement de la vie divine. Notre être physique, un moule de la substance divine. Cette action de Dieu en nous s'opère par une ouverture de notre être à la gnose divine et à l'ananda divin, et elle devient complète par notre ascension en la gnose et en l'ananda lorsque nous sommes établis là d'une façon permanente. Car bien que nous vivions physiquement sur le plan matériel et que dans la vie normale extrovertie, le mental et l'âme sont soit absorbés dans l'existence matérielle, cette extériorisation de notre être n'est pas une limitation obligatoire. Nous pouvons s'élever notre conscience intérieure de plan en plan et gravir l'échelle des relations du Purusha et de la Prakriti. Nous pouvons même, au lieu de l'être mental que nous sommes, dominé par l'âme physique et par la nature, devenir l'être gnostique, ou le moi de béatitude, et revêtir la nature gnostique ou la nature de béatitude. Par cette élévation dans la vie extérieure, nous pouvons transformer toute notre existence extérieure dès lors. Au lieu d'une vie dominée par la matière, nous aurons une vie dominée par l'esprit. Et toutes les circonstances seront modelées et déterminées par la pureté de l'être, par la conscience infinie au sein même du fini, par l'énergie divine, par la joie divine et la béatitude de l'esprit. Tel est le but. Nous avons vu aussi quels étaient les éléments essentiels de la méthode, mais ici nous devons d'abord considérer brièvement un aspect de la méthode que nous avons laissé de côté jusqu'à présent. Dans le système du yoga intégral, par principe, toute la vie fait partie du yoga, mais la connaissance que nous avons décrite semble être une connaissance de quelque chose qui est derrière la vie plutôt qu'une connaissance de la vie telle qu'on l'entend généralement. Il y a deux sortes de connaissances. Celle qui cherche à comprendre extérieurement le phénomène apparent de l'existence en l'absorbant du dehors par l'intellect, c'est la connaissance inférieure. La connaissance du monde visible. Et la connaissance qui cherche à connaître du dedans la vérité de l'existence à sa source et en sa réalité par la réalisation spirituelle. Généralement, une distinction tranchante sépare les deux. Et l'on présume qu'une fois acquise la connaissance supérieure aux connaissances de Dieu, tout le reste, c'est-à-dire la connaissance du monde, ne nous intéresse plus, mais en réalité, ce sont deux aspects d'une seule et même recherche. En fin de compte, toute connaissance est connaissance de Dieu, en lui-même, dans la nature et à travers les œuvres de la nature. L'espèce humaine doit tout d'abord chercher cette connaissance dans la vie extérieure, car tant que sa mentalité n'est pas suffisamment développée, la connaissance spirituelle n'est pas vraiment possible. Mais à mesure que son mental se développe, les possibilités de connaissance spirituelle deviennent de plus en plus riches et de plus en plus pleines. La science, l'art, la philosophie, l'éthique, la psychologie, la connaissance de l'homme et de son passé, et même l'action sont des moyens d'arriver à la connaissance des œuvres de Dieu dans la nature et dans la vie. Au début, c'est le mécanisme de la vie et des formes de la nature qui nous occupe. Mais à mesure que nous allons en profondeur et que notre vision et notre expérience deviennent plus complètes, chacune de ces voies nous amène face à face avec le divin. La science, à la limite, même la science physique est finalement obligée de percevoir l'infini, l'universel, l'esprit, l'intelligence et la volonté divine dans l'univers matériel. Ce but est encore plus évident pour les sciences psychiques qui s'occupent du fonctionnement des plans subtils et des pouvoirs supérieurs de notre être et qui entrent en contact avec les êtres et les phénomènes des mondes par derrière, invisibles et imperceptibles pour nos organes physiques, mais vérifiable par le mental et par les sens subtils. L'art conduit au même but. L'être humain esthétiquement doué et intensément préoccupé par la nature doit finalement arriver à travers les émotions esthétiques à l'émotion spirituelle et percevoir non seulement la vie infinie, mais la présence infinie qui est en elle. Préoccupé par la beauté dans la vie de l'homme, il doit finalement être amené à voir le divin, l'universel, le spirituel dans l'humanité. La philosophie qui s'intéresse au principe des choses doit être amenée à percevoir le principe de tous les principes, examiner sa nature, ses attributs, son fonctionnement essentiel. De même, l'éthique doit finalement percevoir que la loi du bien qu'elle cherche est la loi du divin et dépend de l'être et de la nature du maître de la loi. La psychologie, par l'étude du mental et de l'âme dans les êtres vivants, conduit à la perception d'une âme unique et d'un mental unique en toutes choses et dans tous les êtres. L'histoire et l'étude de l'homme, de même que l'histoire et l'étude de la nature, conduisent à la perception du pouvoir et de l'être éternel et universel dont la pensée et la volonté se réalisent par l'évolution cosmique et humaine. Même l'action nous oblige à entrer en contact avec le pouvoir divin qui agit à travers nos actes et les utilise, les gouverne. Dès lors, l'intellect commence à percevoir et à comprendre le divin. Les émotions commencent à sentir, à désirer, à vénérer le divin. La volonté commence à se mettre au service du divin, sans lequel la nature et l'homme ne peuvent pas exister, ni se mouvoir et dont la connaissance consciente peut seule nous permettre d'atteindre à nos possibilités les plus hautes. C'est ici qu'intervient le yoga. Il commence par se servir de la connaissance, des émotions, de l'action afin d'entrer en possession du divin. Car le yoga est la recherche consciente et parfaite avec le divin, vers lequel tout le reste s'acheminait et tâtonnait dans l'ignorance et d'une façon imparfaite. Le yoga commence donc par s'écarter des activités et des méthodes de la connaissance inférieure, car tant dit que la connaissance inférieure s'approche de Dieu indirectement du dehors et n'entre jamais en sa demeure secrète, le yoga nous appelle à l'intérieur et s'approche de lui directement, tandis que la connaissance inférieure le cherche par l'intellect et devient consciente de lui derrière le voile. Le yoga le recherche par la réalisation, soulève le voile et arrive à la pleine vision. Tandis que la connaissance inférieure sent seulement la présence et l'influence, le yoga entre en la présence et se remplit de l'influence, tandis que la connaissance inférieure perçoit seulement les mécanismes et par eux arrive à quelque aperçu de la réalité. Le yoga identifie notre être intérieur à la réalité et de là voit tous les mécanismes. Par conséquent, les méthodes du yoga diffèrent des méthodes de la connaissance inférieure. La méthode de connaissance du yoga consiste toujours à tourner le regard au-dedans et dans la mesure où nous regardons les choses extérieures, à percer les apparences de la surface afin d'arriver à l'unique et éternelle réalité qui les habite. La connaissance inférieure s'occupe exclusivement des apparences et des mécanismes. La première nécessité de la connaissance supérieure et donc de s'en écarter pour trouver la réalité dont ils sont l'apparence et l'être ou le pouvoir d'existence consciente dont ils sont le mécanisme. Elle y parvient en trois mouvements qui sont nécessaires l'un à l'autre et se complètent l'un et l'autre. Purification, concentration, identification. L'objet de la purification est de rendre l'être mental tout entier tel un miroir clair en lequel la réalité divine puisse se réfléchir, tel un clair vaisseau où la présence divine puisse se déverser, un canal sans obstruction par lequel l'influence divine puisse couler, une substance subtilisée dont la nature divine prenne possession et qu'elle puisse refaçonner et utiliser à des fins divines. Car l'être mental actuel réfléchit seulement la confusion créée par la vision mentale et physique du monde. Il est seulement un vaisseau de désordre de la nature inférieure ignorante, un canal plein d'obstructions et d'impuretés qui empêchent la nature supérieure d'agir. Par conséquent, la façon tout entière de notre être est déformée et imparfaite. Elle est indocile aux influences supérieures, tournée vers des entreprises ignorantes et inférieures dans son action. Même le monde, elle le réfléchit faussement, elle est incapable de réfléchir le divin. La concentration est nécessaire d'abord pour détourner la volonté et le mental de cette divagation discursive qui est leur naturelle et les empêcher de suivre le mouvement dispersé des pensées. Les empêcher de courir après les désirs aux multiples rameaux, de s'égarer sur la piste des sens et dans les réactions mentales extérieures devant les phénomènes. Nous devons fixer la volonté et la pensée sur l'éternel et le réel qui est derrière tout. Et ceci exige un effort immense, une concentration exclusive. Ensuite, la concentration est nécessaire pour percer le voile que notre mentalité ordinaire a tissé entre la vérité et nous-mêmes. Car tandis que la connaissance extérieure peut être cueillie en passant par une attention et une réception ordinaire, la vérité intérieure et supérieure cachée ne peut être saisie que par une concentration absolue du mental sur son objet. Une concentration absolue de la volonté pour atteindre cet objet. Puis, une fois l'objet atteint, pour le garder d'une façon habituelle et s'y unir solidement. Car l'identification est la condition d'une connaissance et d'une possession complète. Elle est le résultat intense d'une réflexion purifiée de la réalité. Une réflexion qui est devenue habituelle et d'une entière concentration sur cette réalité. Et l'identification est nécessaire afin de briser entièrement la division qui sépare notre être de l'être divin et de la réalité éternelle comme il en est dans la condition normale de notre mentalité ignorante non régénérée. Rien de tout cela n'est accessible par les méthodes de la connaissance inférieure. Il est vrai qu'ici aussi, elle est une action préparatoire, mais seulement jusqu'à un certain point et jusqu'à un certain degré d'intensité. Quand leur action prend fin, l'action du yoga reprend notre croissance divine et trouve les moyens de la compléter. Toutes les recherches de la connaissance, quand elles ne sont pas viciées par une tendance trop terre-à-terre, tendent à raffiner, à subtiliser, à purifier l'être. À mesure que nous nous mentalisons, notre nature entière acquiert un fonctionnement plus subtil et devient plus apte à réfléchir et à recevoir les pensées supérieures, une volonté plus pure, une vérité moins physique, des influences plus intérieures. le pouvoir de purification de la connaissance éthique, des habitudes éthiques de la pensée, de la volonté est évident. La concentration du mental et l'entraînement progressif de la volonté à recevoir la vérité et à vivre dans la vérité est aussi un résultat évident de ces diverses recherches et leur nécessité constante. Finalement, dans leur intensité les plus hautes, elles peuvent et doivent conduire d'abord à une perception intellectuelle, puis à une perception réfléchissante de la réalité divine, qui peut aboutir à une sorte d'identification préliminaire. Mais tout cela ne dépasse guère un certain point. Seules les méthodes spéciales du yoga peuvent opérer la purification systématique de l'être tout entier, qui permettra de réfléchir et de recevoir intégralement la vérité divine, la réalité divine. La concentration absolue du yoga doit remplacer les concentrations dispersées de la connaissance inférieure. L'identification vague et inefficace que la connaissance inférieure peut donner doit être remplacée par l'union complète, intime, impérieuse et vivante qu'apporte le yoga. Toutefois, le yoga pas plus sur son chemin que dans la réalisation n'exclut ni ne rejette les formes de la connaissance inférieure, à moins qu'il ne prenne l'allure d'un ascétisme extrême ou d'un mysticisme tout à fait incapable de supporter cet autre mystère divin qu'est l'existence du monde. Alors, j'arrive à la fin de ce yoga de la connaissance supérieure et de la connaissance inférieure. La contemplation de Dieu dans la nature, la contemplation et le service de Dieu dans l'homme, dans la vie de l'homme et du monde, dans son passé, dans son présent, son avenir, sont également des éléments utiles au yoga de la connaissance afin de compléter la réalisation de Dieu en toutes choses. Seulement, tout est dirigé vers l'unique but, dirigé vers le divin, rempli de l'idée de l'existence divine et infinie, universelle. Si bien que les préoccupations sensorielles, pratiques extraverties de la connaissance inférieure, absorbées dans les phénomènes et dans les formes, font place à l'unique préoccupation divine. Après la réalisation, les mêmes caractéristiques persistent. Le yogi continue de connaître et de voir Dieu dans le fini, d'être un canal de la connaissance de Dieu et de l'action de Dieu dans le monde. Par conséquent, la connaissance du monde et l'élargissement ou l'élévation de tout ce qui appartient à la vie font partie de son domaine. Seulement, en tout, il voit le divin. Il voit la réalité suprême et le mobile de son action est d'aider l'humanité à trouver cette connaissance du divin et la possession de la réalité suprême. Il voit le divin dans des données de la science, le divin dans les conclusions de la philosophie, le divin dans les formes du beau, les formes du bien, dans toutes les activités de la vie. Le divin dans le passé du monde et dans ses conséquences, dans le présent et dans ses tendances, dans l'avenir et surtout dans sa grande marche. En chacun de ses domaines ou en tous, il peut apporter la vision illuminée, le pouvoir libéré de l'esprit. La connaissance inférieure était l'échelon d'où il s'était élevé à la connaissance supérieure. La connaissance supérieure illumine pour lui l'inférieur et l'intègre, y compris la plus basse frange et la plus extérieure radiation. Voilà. Donc, je termine ce chapitre 25 de la connaissance supérieure et de la connaissance inférieure, écrit par Sri Aurobindo, de la synthèse des yogas 2, le yoga de la connaissance intégrale et de l'amour divin, traduit de l'anglais par Douce Mère. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère, de m'avoir permis de lire ce chapitre 25. Merci Sri Aurobindo, merci Douce Mère, merci Auroville Radio, Ganga Lakshmi.